On retourne à notre étude en Ésaïe, donc. On est en Ésaïe 42. Et si vous vous souvenez, en décembre, on a arrêté après ce passage très fameux qui décrit Jésus d'une manière tout à fait reconnaissable dans les évangiles. Non, il n'y en a pas. Désolé. Et là, par exemple, il ne criera pas, il ne lèvera pas la voix, il ne le fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau broyé, il n'étendra pas la mèche qui faiblit. Il relevera le droit selon la vérité. Ce passage merveilleux en Ésaïe 42 qui désigne notre Seigneur. Et là, on arrive à une chanson de louange. Là où le prophète, donc il est amené aux auteurs, vraiment les auteurs de toute la prophétie en annonçant l'espoir du monde qui est le sauveur du monde, Jésus-Christ. Et puis, ils partent maintenant dans un cantique de louange. Alors que, vous doutez bien, qu'une chanson de louange écrite il y a presque 3000 ans, est tout à fait différent de ce que nous avons chanté aujourd'hui. Les mentalités sont différentes, les gens étaient différents. Mais la louange a une puissance. Elle est prophétique. Elle nous parle. Et elle est même spirituellement thérapeute aussi. Ça guérit, ça nous recentre, ça nous aide à refocaliser sur ce qui est le plus important. La louange est une adoration, une proclamation de la vérité, de ce que Dieu est et parfois aussi de qui nous sommes. Et en cela, la louange est aussi l'évangélisation. En fait, la louange existe. Comme dit John Piper, la louange existe parce que le monde ne loue pas Dieu. C'est pour cela que l'Église, surtout, est appelée à louer le Seigneur, parce que ce monde qui a été créé par Dieu refuse de le reconnaître. Alors, dans notre passage, on va voir un appel. Un appel à une louange générale, généralisée. Deuxièmement, on verra Dieu qui agit puissamment. Enfin, ça nous amène au sujet de la grâce, ce qui est peut-être pour nous aujourd'hui ce qui nous touche le plus. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Cette grâce que tu nous donnes de pouvoir se réunir en ton nom, se rappelant qui tu es. Nous te demandons, Seigneur, de nous parler prophétiquement aussi, de nous donner la connaissance, discernement, la sagesse nécessaire pour nos vies quotidiennes, pour que nous soyons des hommes et des femmes, des adorateurs, des véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Parle-nous au travers de ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. D'abord, en Ésaïe 42, à partir de verset 10, il y a un appel à la louange. Que la terre se réjouit, en fait. Hein. Versets 10 à 12. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Sa louange depuis le bout du monde, vous qui voguez sur la mer, vous qui la remplissez. Les îles et leurs habitants, que le désert et ses villes élèvent la voix, ainsi que les villages où habite Kédar, que les habitants de Séla éclatent en acclamations. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Et qu'on rende gloire à l'Éternel. Et que dans les îles, on publie la louange. Ésaïe, donc, il fait appel à un mouvement général. Pas une grève, mais quelque sorte. Hein. Une grève de la normale, de la mentalité normale des gens qui se plaignent tout le temps sur plein de choses. Non, c'est un mouvement général de louange en l'honneur de l'Éternel. Il vient de présenter son serviteur, celui qui ne brisera pas le roseau endommagé, qui n'étendra pas la mèche fumant. C'est lui qui porte tous nos péchés. Et là, en présentant Jésus, l'espoir des nations, c'est un sujet de joie pour tout le monde. Et puis il le dit dans le texte, ceux qui habitent dans des lieux partout, les îles, les nations lointaines, que tout le monde loue le Seigneur. Un chant nouveau, un sujet de joie. En fait, nous rappelons que même en Philippiens chapitre 2, que finalement, un jour, tout genou fléchira et proclamera Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Parfois, on a cette idée un peu bizarre, je trouve, que au ciel, ça serait que des temps de louange et ça va être finalement bien, mais un peu ennuyant. Non, il n'y aura pas d'ennui dans le ciel, lorsque nous serons avec le Seigneur. Et même si on serait porté, et je ne suis pas du tout convaincu que ça serait ça pendant tout notre temps au ciel, il y a plein d'autres textes qui nous indiquent plein d'autres activités, même si cette qualité de louange sera totalement différente. D'abord, je ne pense pas que l'ennui existera dans le corps ressuscité. Vous savez peut-être que l'ennui en tant que mot et même en tant que concept est assez récent. C'est dans les dernières 200 années hein, que nous avons cela. Et étrangement, même en anglais, on utilise le mot bored, mais le concept vient du mot ennui, le mot français. Quelque part, ça vient ici en Europe, ça part partout dans le monde, et quelque part, notre pays, les Américains, ont rendu l'ennui encore plus excitant avec nos smartphones et toute la technologie. Non, je pense que une fois aux États-Unis, une fois que les États-Unis sera fini, enfin, tout ce monde, tout ce que nous avons ici sera totalement changé par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'ennui. Et la louange sera beaucoup plus naturelle. Mais pour maintenant, aujourd'hui, le Seigneur doit le dire. Et que la louange se passe. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. C'est un commandement. Et la louange existe, c'est vrai, parce que dans ce monde, le monde impie ne veut pas le louer. Donc, il est important pour nous de le faire. Mais deuxièmement, dans ce texte, l'Éternel, il est décrit comme un héros, et c'est là où c'est très différent de nos textes. Dans notre mentalité moderne européenne, on a du mal justement à voir d'un vue positive un guerrier avec son épée prêt justement à gagner et là avec beaucoup de vraiment beaucoup de violence en fait. Mais dans ce contexte, l'Éternel va sortir comme ce héros et il va parler. D'abord, regardez comment il est dépeint. Ésaïe 42, verset 13. L'Éternel sort comme un héros. Il excite son zèle. Comme un homme de guerre, il lance la clameur. Il jette des cris, il triomphe de ses ennemis. Alors, c'est fort hein, comme image qui est présentée. Cet héros, ce langage du guerrier. Et même si ce n'est pas forcément dans notre mentalité, c'est bien aussi pour nous de se rendre compte qu'il est fort et qu'il est puissant. Surtout à une époque où nous ressentons notre impuissance face à tout ce qui se passe en ce moment. Certes, nous avons certains droits, nous avons certaines possibilités, des choses, grâce à la technologie et à la science, il y a des choses qui sont à notre portée, des choses que nos anciens, ils ont rêvé de ces choses. Mais même en cela, on est vraiment impuissant face à la pandémie, face au changement climatique, pas mal de choses, on dirait. Il est important pour nous de savoir que notre survie ne dépend pas de nous et notre impuissance. Notre survie est dans les mains de celui qui a donné sa vie pour nous sauver. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous pouvons remarquer aussi un langage de guerrier. Mais pas tout à fait dans le même contexte. C'est vrai, par exemple, je vous cite Éphésiens 6. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs et des ténèbres d'ici-bas, et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et puis il décrit après les armes du Seigneur. Mais c'est pas comme tout le monde, hein. C'est une casque de salut. C'est une cuirasse de la justice. On se rappelle que même le mot évangile, au début, l'origine de ce mot, annonce la victoire d'un roi qui revient du bataille. Et c'est dans ce sens que les gens, ils ont proclamé l'évangile. Donc, quand on lit dans les évangiles que Jean-Baptiste a partagé l'évangile, a proclamé l'évangile, que les disciples ont proclamer l'évangile, c'est ça l'idée dans les gens qui l'ont lu pour la première fois. Un roi guerrier qui sort du bataille et la bonne nouvelle, oui c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est qu'il a gagné et que les ennemis ne sont plus. Alors quand on voit Jésus qui est doux, qui est humble, qui n'est pas à éteindre la mèche fumante, comment ça marche? Nous le savons tous, c'est grâce à ce que nous lisons, même en Colossiens, chapitre 2, verset 15, où nous voyons comment notre roi a triomphé magistralement. Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. C'est par la croix qu'il a fait ces choses-là. Et c'est pour nous un sujet éternel de louange. Donc on n'est pas aussi loin que cela dans notre mentalité aujourd'hui. Pour revenir à Isaïe, il est prêt donc à agir, ce roi guerrier. Et c'est lui qui prend la parole. Donc, je reviens en Ésaïe 42 et écoutez ce qu'il dit. Ésaïe 42, c'est à partir de verset 14. « J'ai longtemps gardé le silence. » C'est Dieu qui parle. « J'ai longtemps gardé le silence. Je me tais. Je me contiens. Je gémis comme une femme en travail. Je suis haletant et je souffle tout à la fois. » Je dévasterai les montagnes et les collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en îles, je dessécherai les étangs. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Lorsque le Seigneur part, c'est fort, c'est plein de confiance. Il y a la patience. Quelque part, il y a l'outrage, patience, parce qu'il attend pour son peuple outrage contre le péché, contre le mal. Parce que le péché est un outrage contre Dieu. Et c'est important pour nous aussi de toujours garder ceci. En fait, un des anciens du Moyen-Âge, Anselme, il avait décrit pas mal de livres là-dessus, mais il est arrivé à une des preuves de Dieu, et dans ce discours, il décrit cet outrage. En fait, il dit que pourquoi est-ce que le péché est si grave? Parce que Dieu est notre souverain. Et lorsque nous péchons, en fait, nous détruisons cette relation que nous avons avec le souverain, nous souillons sa réputation et nous dégradons sa création. Et donc, c'est pour cela que le souverain doit agir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour entrer dans cet espace où il y avait l'outrage. Il a payé le prix afin que la relation soit restaurée. Ça, c'est la grâce. Et maintenant, c'est l'Éternel donc qui parle au travers de ce prophète. On se rappelle aussi que dans le Nouveau Testament, on a ce genre de langage de patience. Par exemple, il y a 2 Pierre 3:9, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Pourquoi? Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Et nous sommes dans cet état-là, ce moment où Dieu, il appelle partout. Il a déjà agi à l'époque d'Ésaïe. Il annonce comment il va agir. Nous savons qu'il agit en voyant finalement son fils unique. Nous savons aussi qu'il agit aussi en ramenant son peuple Israël dans leur terre. Il a tout à fait accompli ce qu'il dit là en verset 16, « Je ne les abandonnerai pas puisqu'il habite maintenant en nous. » On est dans cette époque où sa patience continue encore grâce à ce moment de grâce dans lequel nous vivons. Il conduit les gens même qui étaient spirituellement aveugles à la vision et ceux qui ne le connaissaient pas à le connaître et à se révéler à eux. Et c'est dans ce contexte que pour le peuple d'Israël, il continue aussi à les aimer et à les chercher même malgré eux. Nous savons à l'époque de Ésaïe, il luttait toujours contre l'idolâtrie. Verset 17, ils disent, ils reculeront, ils seront confondus de honte, ceux qui se fient aux statues, ceux qui disent au métal fondu, vous êtes nos dieux. Donc Dieu visait la destruction de l'idolâtrie de son peuple. Et si vous lisez les livres d'histoire du retour, donc cette première génération d'Israélites qui sont revenus sur leur terre après ce jugement, donc les livres de Esdras et de Néhémie, vous remarquerez comme une presque, je dirais, une phobie presque de l'idolâtrie. D'abord, on n'en parle pas. Et ils sont prêts à faire des choses, je dirais, très radicales pour que ça ne se produise jamais plus. Tellement ils sont changés. Dieu a accompli cela. C'est intéressant aussi comment cette guerre contre l'idolâtrie continue toujours d'ailleurs et ne s'achèvera pas jusqu'à ce que Jésus ne revienne en fait. Parce que pour qu'on se débarrasse entièrement de toute idolâtrie, d'ange et d'idolâtrie, il faut que nous soyons pas juste nés de nouveau, mais il faut que nous soyons ressuscités pour que le péché n'existe plus en nous. Parce que le problème, c'est que l'idolâtrie, ça revient grâce à notre nature pécheresse. Le fait que notre amour dévie facilement, que Jésus aussi parle de l'amour de beaucoup qui se refroidira, c'est... Si notre amour pour le Seigneur est remplacé par un autre amour, ça c'est de l'idolâtrie, c'est des choses que nous voyons très souvent. Mais Dieu mènera ce combat et l'achèvera. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que cette lutte continue toujours dans notre cœur par le Saint-Esprit qui travaille en nous. Jour après jour, lorsque il nous révèle des choses dans notre cœur, il met le doigt sur un amour qui devient peut-être trop important, ou bien par une crise où nous voyons que nous nous sommes trop attachés à quelque chose et qui prend trop grande place dans notre vie. C'est son Saint-Esprit qui le révèle à nous pour que nous revenions à lui, demandons pardon, que nous lâchons la chose devant lui. Il travaille en nous, il agit en nous. Et même si, dans Ésaïe, même si Israël ne répond pas, Dieu montrera sa grâce. Justement, c'est ça la définition de la grâce. La grâce est un acte souverain de Dieu où, même quand nous étions dans rébellion, lui, il choisit sans aucun intérêt à gagner par lui-même d'agir et de payer le plus grand de prix pour notre salut, notre adoption dans sa famille. C'est pourquoi on dit que la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Et il appelle donc Israël. Et il dit, versets 18 et 19, « Sourde, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourde comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui qui a trouvé la paix, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Sourde, écoutez. » Alors, il ne faut pas imaginer que c'est le Seigneur qui se moque d'eux. Hein. Il n'est pas en train de dire sourde, écoutez. Non. Comme Jésus a dit au paralytique, donc un homme qui n'a aucun espoir de se lever et marcher, prends ton lit et marche. Dieu aussi, lorsqu'il parle à un sourd ou un aveugle, en disant écoutez, voyez, il faut se rendre compte de toute sa puissance guérissante derrière qui rend l'impossible possible. C'est lui qui parle et les choses entrent en existence. Il faut toujours tenir ceci en compte, même dans ses reproches. Parce qu'effectivement, verset 20, il a dit « Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y prends pas garde. On a ouvert des oreilles, mais on n'a pas entendu. L'Éternel a voulu, à cause de la justice, rendre la loi grande et magnifique. » En fait, on peut même traduire dans certains cas, l'Éternel a pris plaisir à rendre grand et magnifique sa loi. C'est toujours son désir au plus profond. C'est que ce monde entier puisse le reconnaître. Alors, Jésus a dit aussi, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Nous savons que, et c'est ça dans le grand mystère de Dieu, entre sa souveraineté et comment il qui est manifesté aussi dans la volonté des gens. Jésus a très bien dit, il y a très peu qui vont entrer. Mais, ceci dit, il veut et il va avoir ce moment où, comme on a dit tout à l'heure, tout genou fléchira et confessera Jésus qui est le Christ. Et c'est important pour nous qu'il le connaissons. Est-ce que nous savons qui sont appelés? Est-ce que nous savons qui vont choisir? Absolument pas. Tout comme, je vous rappelle, en Actes, lorsque Saul de Tarse a été converti en chemin et Ananias était appelé par le Seigneur de prier pour lui, il ne voulait pas y aller parce qu'il craignait Saul. Lui qui était en train de parler avec le Seigneur avait peur que Christ, enfin que Saül n'a pas changé. Nous sommes appelés à une mission justement pour ramener les gens à Christ. Rendre cette loi, cette parole grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous pris au piège, dans les fosses, dissimulés, dans les cachots. Ils ont été même au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés, personne ne dit restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses et qui voudra s'y rendre attentif pour écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob à ceux qui a dépouillé et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel contre qui nous avons péché? Ils n'ont pas voulu marcher en ses voies et ils n'ont pas écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Celle-ci l'a embrasé de toutes parts. Il n'a rien voulu reconnaître. Elle a consumé et n'a pas pris la chose à venir à cœur. Là, on voit que, effectivement, Dieu a accompli aussi sa parole vis-à-vis de leur correction. Comme ils étaient en flagrant rébellion, malgré tout, les avertissements, Dieu, dans sa fidélité, les a délivrés justement à cette terrible exil babylonien. Mais il ne voulait pas qu'il se décourage. Et justement, où est la grâce? La grâce arrive dès le prochain verset, 43, verset 1. Ainsi par maintenant. C'est-à-dire, oui, je t'ai délivré à ce que tu méritais. Oui, tu as passé par ce temps, ainsi par maintenant donc. Compte tenu de tout ce que j'ai dit, qui t'a créé au Jacob, c'est lui qui t'a formé au Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, et je t'ai appelé par mon nom. Tu es à moi. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Et on va parler beaucoup plus de cela la semaine prochaine. Une grâce de Dieu. Chose magnifique, mais nécessaire quand on voit la comparaison avec notre péché. Combien par un seul péché, le monde entier est dans cette condition où on est, mais par un seul homme est venue la grâce, la libération en Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous amène aussi à la repentance. Et en conclusion, aujourd'hui, aujourd'hui est ce jour de grâce, puisque l'évangile est annoncé. Jésus est ce roi victorieux. Il a gagné contre les ennemis de notre âme. Il a gagné aussi contre la mort. Il est assis à la droite du Père en toute gloire, en attendant son retour. Et il demande une réponse de notre part. Il faut réagir. Oui, ces choses sont vraies. Et il demande que nous répondions en lui donnant notre foi, en mettant notre foi en lui. Dans notre passage, nous avons vu donc une chanson de louange qui est lancée par le prophète parce que Dieu allait agir. Et nous avons vu cette chanson de louange maintenant lancée par ce prophète en écho. Dieu va agir. Dieu est le Dieu de grâce. En parallèle, nous mettons la chanson joyeuse de louange de l'Église. Nous sommes après maintenant les faits, en attendant la pleine accomplissement de tout. Jésus-Christ est venu, il est ressuscité. Et nous vivons dans cette époque que je suis persuadé que dont Ésaïe rêvait, où le Saint-Esprit habite en nous et qui descend sur nous pour nous équiper pour le ministère, une chanson joyeuse de l'Église qui l'acclame. Le Dieu souverain, Christ, est venu, il est vainqueur, il nous a sauvés. Et donc notre louange est aussi prophétique. Notre louange évangélise. Et c'est important parce que nous avons pas mal à évangéliser aujourd'hui. Effectivement, ce monde n'est pas dans la louange. Pardon. Ce monde est plutôt dans la rébellion. Mais c'est à nous de louer. La louange nous appartient. Alors prenons-le en main, dans votre cœur. Imaginons justement ce qui peut changer autour de nous si, en embrassant cette louange, que si nous devenions vraiment ces femmes, ces hommes, des véritables adorateurs que le Père recherche, qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Imaginons justement cette ambiance autour de nous qui va aussi changer. Et je pense que l'évangélisation ne sera plus aussi difficile qu'on le pense. Ça sera peut-être beaucoup moins gênant, beaucoup moins calculé et beaucoup plus naturel. Parce que ça va couler tout simplement d'un cœur qui est réjouissant et content et réjouissant dans un Sauveur qui est si merveilleux. Que ce soit nous pour cette nouvelle année. Prions. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ton immense grâce et bonté que tu déverses sur nous. Ce que tu fais au travers même de nous et de notre vie, cette grâce, Seigneur, malgré nous, tu as choisi de donner ta vie. Et pour nous personnellement, même lorsque on était loin, on n'avait même pas pensé à cœur, tu as envoyé des gens qui ont partagé l'évangile à nous. Pour ceux qui ont été nés dans une famille chrétienne, tu nous as donné des parents qui nous ont donné la parole. Seigneur, dans ton immense grâce, tu nous as arrachés de ce monde. Et nous sommes éternellement reconnaissants. Alors nous te demandons par ton Saint-Esprit de nous remplir d'un cœur qui déborde de la joie et de la grâce. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.